débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
Tout s'est passé lors du premier virage dans ce Grand Prix du Mexique, 18e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1, le deuxième du triptyque américain qui a vu la victoire de Max Verstappen. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport, spécial Formule 1.
Je suis l'aigle de la route.
Quel dommage.
Schumacher, je pense,
non,
à la
il
roue
avait passé.
Droite qui est ouverte.
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Fabio Quartararo, vainqueur de sa première course en MotoGP. C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire.
La route est dégagée, petit grand. Fais-moi péter cet engin.
Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire.
Pour nous accompagner, ils sont dans leur tour de formation. Samy, Aliou Alassane et Teddy sont là. Salut messieurs.
Salut Gilles, salut à tous.
Bonsoir à salut tous.
Messieurs, un petit point résultat avant d'entendre à nouveau vos voix. Max Verstappen s'est à nouveau imposé pour la 9e fois de la saison devant Hamilton et son coéquipier qui roulait à domicile, Sergio Pérez. Le Français Gasly termine au pied du podium en devançant les Ferrari. Au classement des pilotes, Verstappen accentue son avance puisque Hamilton, son rival, a désormais 19 points à combler à 4 Grands Prix de la fin. Bottas est toujours 3e. Et du côté des constructeurs, Mercedes, leader, n'a plus qu'un tout petit point d'avance sur Red Bull. Et événement, Ferrari est désormais la 3e écurie devant McLaren. Voilà messieurs, on va maintenant vous entendre sur ce Grand Prix du Mexique. Bon, le fait marquant, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est la masterclass de Verstappen durant ce Grand Prix et plus globalement, la domination de Red Bull sur Mercedes. Samy, tu vas me contredire ou pas ?
Non, c'est vrai qu'on a été plutôt surpris. Hein. Moi, personnellement, j'ai été surpris de cette domination qui avait commencé dès les essais libres. En essais libres 3, ça s'était accentué. On avait vraiment l'impression que rien ne pouvait arrêter les Red Bull. Et puis grosse surprise en Q3 de la qualification, donc où les Mercedes semblaient sortir enfin de leur tanière et ont signé les pole positions pour Bottas et deuxième temps pour Hamilton. Là, je me suis dit ça allait être un peu compliqué. Au fait, Mercedes avait bien caché son jeu.
Ouais, là, on s'est dit c'était chiant, c'est encore un bluff de leur part.
Ils exactement. Sont mais je pense qu'on les a un peu surestimés sur le coup. Ils n'avaient vraiment pas de rythme de course, en tout cas. Peut-être qu'en qualification, le rythme quali avait bien fonctionné. En course, ça n'a pas été le cas. Et puis masterclass de Verstappen dès le départ, départ canon dont il a le secret, il arrive à prendre l'aspiration sur Bottas, à le doubler, et puis il n'a pas lâché la tête de la course, dont Lewis Hamilton a longtemps dû défendre sa deuxième place face au Mexicain qui était à domicile avec une, il faut le souligner, hein, super week-end, grosse ambiance, température de piste très élevé, donc automatiquement le jeu des pneus, il fallait vraiment être attentif pour les pilotes. Et puis c'est ce qu'on l'a vu dans les discussions radio, beaucoup de discussions autour des pneus, autour du réchauffement des freins notamment. Il fallait vraiment jongler là-dessus. Et dans ce jeu-là, que ce soit sur la tactique ou que ce soit en course, Red Bull a été au-dessus. Précisons quand même que le moteur Honda a très bien joué son rôle en termes de fiabilité et surtout en termes de performance, puisque la quatrième place, on reviendra peut-être dessus plus tard, revient à une AlphaTauri, celle de Pierre Gasly.
Alors en termes de stratégie, Samy, est-ce qu'il n'y a pas là voilà, un petit bémol à émettre sur la performance de Red Bull ce week-end, où moi je pense que le doublé en course était largement à leur portée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit raté là au niveau passage au stand de Pérez notamment, qui a très longtemps retardé son premier passage au stand pour finalement mettre des pneus, les mêmes pneus hard qu'Hamilton. Oui. Voilà, moi j'ai un petit bémol là sur ce fait de course.
Moi, je te rejoins qu'à moitié. Je pense que de toutes les façons, quand Pérez, quand les deux autres pilotes, c'est-à-dire Verstappen et Hamilton, rentrent au stand, on est autour du 36e, 37e tour, Pérez à la tête, il commence déjà à être en souffrance avec ses pneus. Je ne pense pas qu'il aurait pu rester un peu plus longtemps en piste. Ton point de vue est tout à fait discutable, le mien aussi peut-être. Après, c'est une question de stratégie. La seule chose, c'est que quand il a changé ses pneus, il n'avait pas d'autre solution au vu de la température de la piste qui avoisinait 50 degrés. N'oublions pas que le circuit de Mexico est en altitude, donc automatiquement, c'est pas les mêmes caractéristiques pour ce qui est de l'aspiration, pour ce qui est de chauffer le moteur, des pneus, etc.
Les pneus, ils tenaient quand même. Les pneus, ils tenaient. Est-ce que Pérez n'aurait pas pu faire 10 tours de plus avec son premier train de pneus?
Pour moi, c'est pas un problème.
Et ensuite, chausser des softs pour faire 20 tours.
Je pense que le problème est venu de Pérez, hein, honnêtement. Il finit le Grand Prix à 0,5 secondes, à moins d'une seconde, on s'est compris.
Une demi-seconde.
Une demi-seconde, merci, j'en perds mes mots. À une demi-seconde d'Hamilton, il avait l'occasion, à deux fois quatre zones de DRS pour le dépasser, il ne l'a pas fait. Pour moi, c'est un problème de pilotage, mais n'était-il pas, grâce à sa voiture, à une place, c'est-à-dire aussi près d'Hamilton pendant plusieurs tours, n'était-il pas une place bien au-dessus de ses capacités réelles de pilote?
On va demander à Liu, masterclass totale de Red Bull, ou alors est-ce que tu vois aussi des petites imperfections sur cette course?
Moi, d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste rebondir rapidement sur ce que a dit Samy à la fin, lorsqu'il dit que Checo Pérez n'a pas fait le boulot. Samy, tu en as vu beaucoup des dépassements hier? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on est au Mexique, on connaît très bien le tracé, qui, comme tu l'as dit, est en altitude. L'aspiration ne fonctionne pas. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de dépassement hier, ou très peu.
Si tu regardes Bottas, Alonso, Vettel, je pense que tu verras des dépassements.
Attendez, les gars, Bottas, il a fait un dépassement?
Oui, Les gars, il a une Mercedes.
Mais je ne l'ai pas vu, les gars.
Il s'est surtout fait dépasser, mais on y arrive.
Pardon, Samy, c'est juste pour te dire que hier, le problème, ce n'est pas Checo Pérez chez Red Bull. Le tracé, Checo Pérez, il a fait la jonction avec Hamilton. Il était à moins d'une demi-seconde. Il restait au moins 7 tours. Il avait le DRS. Il ne pouvait pas. On sait tous que ça se passe comment. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vais même un peu vous.
Donc pour toi, le problème, il vient d'où, alors, à ce moment-là? De la stratégie, alors?
Bien évidemment!
Je ne suis pas d'accord là-dessus, c'est pas possible.
À partir du
vas-y, Aliou, développe sur la stratégie, Aliou.
Oui, à partir du moment où Max Verstappen, il s'est mis à 8 secondes d'Hamilton, il n'y avait plus de Grand Prix entre Hamilton et Verstappen. Le Grand Prix se jouait entre Hamilton et Checo Pérez. Tout le monde savait qu'à partir du moment où Verstappen s'est mis à l'abri du DRS, Verstappen allait gagner le Grand Prix. Il s'est mis à 7, 8, à un moment donné, il avait 12 secondes d'avance sur Hamilton. Red Bull n'avait juste à caler sa stratégie de Checo Pérez sur Hamilton. C'est le Grand Prix, il était fini de toute manière. Il fallait juste faire un undercut. Je comprends toujours pas comment les stratèges de Red Bull...
Comment tu veux faire un undercut sur Hamilton quand Hamilton fait un undercut sur Verstappen?
Attends, je finis, Samy. Je t'explique rapidement. Hamilton, il a 12 secondes de Verstappen. Checo Pérez, il commence à faire la jonction. Il est à 2 secondes. Il est à moins de 2 secondes d'Hamilton. Je ne comprends toujours pas comment les stratèges de Red Bull ont laissé Hamilton s'arrêter avant Checo Pérez. Et quand bien même Hamilton se sera arrêté devant Checo Pérez, lorsqu'Hamilton y ressort, Hamilton y ressort derrière Leclerc. Je ne comprends toujours pas pourquoi Red Bull n'a pas couvert la stratégie d'Hamilton. Ils étaient à deux voitures contre une. Verstappen, il était irrattrapable, de toute manière. Et je veux même peut-être vous surprendre, c'était prévu que Red Bull gagne. Ce qui était prévu, d'ailleurs, c'était que Red Bull fasse le doublé. Et moi, je pense que le pilote du jour, ce n'est pas Verstappen. Certes, il part de la troisième place. Mais lorsque la Q3 est finie, qu'est-ce qu'il dit, Verstappen? Il dit « Je préfère partir de la troisième place plutôt que de la première ligne. » Parce qu'il sait très, très bien que Bottas va lui donner une aspiration, et au-delà de l'aspiration que Bottas lui a donnée, mais Bottas lui a fait un tapis rouge.
Carrément. Alors, je dirais, avant de laisser la parole à Teddy, je dirais même que Bottas, dès le départ, c'est lui qui ouvre la porte à Verstappen. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, Aliou, c'est que si Bottas ne commet pas cette erreur au départ et s'il ne se fait pas percuter, on ne sait pas au bout de combien de tours Verstappen aurait pu doubler des Mercedes s'il avait dû faire un undercut. Et puis on sait très bien comment ça se passe maintenant au stand. Un undercut, les passages au stand peuvent être ratés, tu rates ton undercut, c'est plus du tout la même physionomie de course après.
Pardon, mais hier, le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix de la Russie, c'est pareil. C'est qu'à partir du moment où vous avez deux voitures en première ligne, il faut juste jouer le jeu des aspirations. Le premier donne l'aspiration au second, et au final, après ensuite, les équipes se mettent d'accord pour est-ce que le premier redonne la place au second. C'est ce que Ferrari a fait en 2019 avec Leclerc et Vettel. Leclerc partait de la première place, a donné l'aspiration à Vettel pour sécuriser les deux premières places. Après, ils se sont embrouillés, ils ont perdu la course. Hier, c'est exactement ce qu'il fallait faire, sauf que Bottas, hier, ne voulait pas jouer le jeu d'équipe. En plus de ça, au lieu de serrer sur sa gauche, il est resté au milieu. Verstappen a pris l'aspiration et le Grand Prix était fini. Pour moi, hier, le pilote du jour, c'est Hamilton.
Il On va demander à Teddy son avis sur notamment ce fait de course. Teddy, vas-y.
J'attends ça avec impatience. Écoutez, c'est simple aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. Bottas est nul, nul comme pas possible, je comprends pas. Dès le début de la course au départ, j'ai voulu arrêter le Grand Prix et ne plus le regarder. Pourquoi ? Parce que comment on explique qu'un pilote, soi-disant avec autant d'expérience, puisse faire une erreur monumentale comme celle-là ? Ils avaient les deux premières places, certes c'est au Mexique, certes on savait que les Red Bull allaient essayer de profiter de l'aspiration, mais il ne joue pas le filou, il ne joue pas le briscard, il n'est incapable de mettre Verstappen sur le côté, comme on a pu le voir par exemple sur certains Grands Prix où Hamilton ou Verstappen s'amusaient à se foutre le plus possible sur l'extérieur. Bottas n'en voulait pas, il s'est mis en mode « moi aujourd'hui j'ai une Red Bull, donc on va tout faire pour battre Hamilton ». Il n'était pas du tout avec son coéquipier, il n'a pas du tout fermé la porte, et ben, ce qui s'est passé, ben, voilà, c'est que Verstappen en a profité, et là c'est même plus un tapis rouge, il lui a donné le titre. Et il donne peut-être aussi le titre constructeur parce qu'il est incapable de se mettre au niveau par rapport à Pérez depuis quelques Grands Prix. Et ça devient problématique. Et je pense qu'il a fait une énorme erreur. Déjà, qu'il se prenait pour l'équivalent d'Hamilton, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il était capable de le battre et d'être champion du monde. Ben là, il l'a prouvé. Il a prouvé qu'il pouvait le battre dans la connerie. Ça, c'est sûr et certain. Et ben, Mercedes se retrouve bien embêté. Et ce qui me choque le plus, c'est que je trouve que le futur coéquipier d'Hamilton, qui est Russell, a fait une meilleure défense de position pour Hamilton lorsque Checo Pérez était en train de revenir sur Lewis, que Bottas n'a pu le faire sur tout le Grand Prix. Donc je trouve ça complètement stupide. J'étais vraiment frustré hier. Attends, je finis deux secondes. Et je vais encore plus loin, moi. Je vais encore plus loin, pourquoi ? Parce que je me dis... Après tout ce que Wolff a fait pour Bottas, il a tout fait pour le garder en F1, lui trouver une autre place et tout, et que le gars ne se retrouve pas à la retraite. C'est comme ça qu'il remercie l'équipe et le reste lui.
C'est son agent aussi.
Mais imagine ça, il vient de faire perdre le championnat, là, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, il se plaint, parce que oui, il y a eu un raté dans les stands, mais je suis désolé, moi je fais partie des gars dans le paddock. Quand tu sais qu'à côté de toi, tu as le gars qui, lui, a 7 titres et vise le 8e, et que tu es dans cette équipe-là, ça va. Mais quand tu dois t'occuper de l'autre qui, en fait, vous met des bâtons dans les roues à chaque fois, ben, je suis désolé, moi aussi, je te mets à 11 secondes au niveau du changement de pneu et tu te débrouilles.
Attends, Samy d'abord et après Aliou.
Bon, moi, j'avoue que sur le départ, on peut être que d'accord avec Teddy. On a l'impression que Bottas ferme la porte à Hamilton. Et ouais. Que, bêtement, déjà qu'on sait
d'accord
que...
D'accord avec Aliou aussi, parce que je dis la même chose.
Oui, bon. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Mais déjà, on sait très bien que sur la pole position au Mexique, ça va être compliqué. Mais lui, au lieu de rester sur sa ligne, il va absolument, je pense, sortir au premier virage devant la Hamilton. Ils l'ont fait peut-être une affaire personnelle. Et ce qui fait que ça laisse une aspiration, une double aspiration incroyable pour les Red Bull, et notamment à Max, qui a un boulevard. J'ai jamais vu un mec doubler comme ça au premier tour et avoir un boulevard aussi net, ce qui pousse Bottas à serrer, ce qui pousse Bottas à se faire rentrer dedans par une McLaren. Et voilà, et le calvaire commence pour Valtteri Bottas, et après... On sait comment ça se passe. Lui, malheureusement, il n'a aucune chance. Quand il commence un Grand Prix de manière catastrophique, ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire les stands, c'est-à-dire, rappelons quand même qu'il fait 11 secondes, puis après, il ressort des stands, et pour faire le meilleur tour en course, ce n'est pas bon. Il re-rentre encore dans les stands, parce qu'ils le font sortir juste derrière Verstappen. Juste devant Verstappen, juste derrière Verstappen, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Et puis, c'est parti dans tous les sens. Pour moi, Bottas, sur toute cette saison, c'est la saison de trop chez Mercedes. Wolff l'a compris un peu tard.
Il a utilisé tout le quota qu'il avait, tout le quota de chance qu'il pouvait avoir, il l'a utilisé dans la F1. Donc maintenant, de lui demander d'en avoir un petit peu sur les Grands Prix, c'est compliqué. Il n'est pas bon.
C'est la saison de trop. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gilles, de ton côté, mais franchement, sur Bottas, c'est un calvaire.
La saison de trop, il fait quand même une bonne saison, Bottas, là, avec Red Bull sur cette fin de championnat.
Ouais, mais messieurs.
Effectivement.
Exactement, avec Red Bull, ouais, il marque les points pour Red Bull.
Ah ouais, le troisième pilote Red Bull. Vas-y, Aliou.
Ouais, mais permettez-moi de faire l'avocat du diable, mais vraiment rapidement sur Bottas, parce que je pense qu'aussi on doit aussi saluer la performance de Verstappen, mais rapidement sur Valtteri Bottas. Mais les gars, vous êtes un peu trop méchants avec lui. Bottas, il se comporte exactement comme Mercedes s'est comporté avec lui durant ces 3-4 années où il est chez Mercedes. Certes, on le fait venir. Toto Wolff.
Je ne peux pas dire ça.
Lui. Le manager de Valtteri Bottas, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Bottas, à plusieurs reprises, avait la victoire en main. À portée de main, on lui a demandé de s'écarter pour Hamilton. Et lui, on lui a toujours fait miroiter du fait que, comme quoi, bon, il allait finir, entre guillemets, sa carrière chez Mercedes. Et sur la dernière année, il voit qu'il n'est pas très... Il est plus désirable, alors qu'il en a fait des choses quand même pour Mercedes et pour Hamilton. Donc, n'ayons pas trop la mémoire de courte. Et
Ali, moi, tu le défends un peu trop. Comment on peut dire ça? Et son rôle, quand on va le chercher, on lui dit jamais que tu seras numéro un.
Oui, mais
à partir de là, surtout quand tu rentres chez Mercedes, tu le sais, ça fait partie des écuries qui ont un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. Ils le savaient.
T'es dit, il n'y a pas de souci, il y a pilote numéro 1 et numéro 2, il n'y a pas
surtout
de souci.
Surtout, excuse-moi, Aliou, mais que tu vas le chercher, ce n'est pas du tout prévu. Tu vois, tu vas le chercher parce que Rosberg te plante lors de la remise du trophée. Voilà.
Encore une fois, pardon messieurs, mais on se souvient tous d'une année où Hamilton avait un nombre incalculable de points d'avance sur son poursuivant et que Bottas était censé gagner une course, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Russie. Et avant sept derniers tours, on demande à Valtteri Bottas de se mettre de côté, quoi. Alors qu'il était parti en pôle, il a...
Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi, lui? Parce que justement, quand lui doit laisser... Quand lui, parfois, devait laisser passer, il ne voulait pas. Tu te rappelles la fois fait, où... Non, je suis pas d'accord avec toi. Même dans Netflix, ils en parlent à un moment donné, parce qu'il ne veut pas laisser passer Hamilton, parce qu'il pense qu'il est plus fort que lui. Ça pose un problème dans une écurie, tu le sais, Aliou.
T'es dit, rapidement.
Non, le pire, c'est qu'il donne l'aspiration à ses concurrents, c'est ça le
problème. Messieurs, rapidement, parce que j'aimerais bien dire un mot sur Verstappen, et en plus de ça, Netflix, pour moi, c'est pas du tout un... Tu me parles de Netflix, mais pour moi, c'est pas du tout un argument, mais bref...
C'est des faits, c'est qu'on l'a entendu, c'est pour ça que je précise, c'est qu'il l'a dit lui-même, c'est sorti de sa bouche.
Valtteri Bottas, hier, il joue pas le jeu, je suis totalement d'accord avec vous. Hier, il laisse piste libre à Verstappen, mais par contre, pour rebondir sur Verstappen, masterclass, franchement masterclass, parce que le freinage qu'il fait hier, il le fait tardivement avec des pneus qui sont froids, c'était ça passe ou ça casse et c'est passé. Moi, j'ai envie de dire qu'il a piloté comme un champion du monde. Aujourd'hui, on est à 19 Grands Prix, il en a remporté 9, dont 50%. Je pense que Verstappen gagne ce championnat du monde. D'ailleurs, je pense qu'il va le gagner. Ça sera tout à fait à son mérite. Il a piloté comme un champion du monde. Il ne s'est pas laissé envahir par la déception des qualifications en Q3, parce que franchement, en Q3, là aussi, masterclass Verstappen et Hamilton. Ils ont sorti des coups.
Il ne pouvait pas être mécontent ou déçu, Aliou. Il l'a dit lui-même, il préfère être en deuxième ligne. Donc, il ne pouvait pas être déçu, au contraire.
Il était déçu, je vais te dire pourquoi, parce qu'il visait la pole position.
Non, il préférait sortir, parce qu'il allait...
Non, il visait la pole. Ce que les Red Bull visaient, c'est la première ligne. Ils voulaient être en pole position et être protégés par Checo Pérez. Ou faire comme ce que Ferrari avait l'habitude de faire, lorsqu'il savait que la pole position n'était pas une garantie, c'est jouer le jeu des aspirations. Le deuxième prend la première place, et au bout de 3-4 tours, le deuxième rend la position au premier. Et ça aurait très bien fonctionné chez Red Bull. Donc franchement, ils étaient déçus chez Red Bull parce qu'ils ont dominé tout le week-end, vendredi, samedi, jusqu'en FP3. Ils ont dominé Q1, Q2, ils dominent. Et quand ils arrivent
C'est un pilote Red Bull qui les a mis dans la panade.
Il a sorti un super tour en qualif. Tu as lu aussi le tour qui sort en qualif. Même Hamilton, ils ont sorti deux super tours en qualif. Moi, franchement, j'étais très admiratif. Je me suis dit, waouh, les Mercedes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et moi, pour moi, franchement, ça aurait été un mini hold-up que de voir Hamilton s'imposer hier. Parce que le circuit au Mexique des frères Rodriguez, tout le monde sait que c'est un circuit qui est typé Honda et Red Bull avec les altitudes et tout. Donc, ce n'est pas trop une surprise de voir la Red Bull de Verstappen qui s'impose.
Samy,
Moi, je veux revenir sur ta question de départ et revenir au duel dans sa globalité. Pour moi, ça va être compliqué de dire que Checo ne revient pas en grâce en cette fin de saison, surtout chez lui. Donc, pour les Grands Prix qui restent, c'est-à-dire le Brésil, le Qatar, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, je le vois bien. Je le vois bien top 4, top 3, facile. Bottas, je pense que c'est terminé. Et puis Lewis qui voilà, qui arrive à en dire à dire à son équipe est-ce que vous êtes toujours là? C'est-à-dire qu'il se demande même si son équipe l'a pas un peu n'a pas l'a pas abandonné lui, mais a abandonné la course au titre quelque part. Donc je pense que le tournant, c'est bien ce Grand Prix du Mexique. Moi, je le verrais bien comme un tournant de la saison. Et je pense que Red Bull, là, est sur un boulevard pour gagner les deux titres.
Teddy?
C'est même plus un boulevard. Ils sont sur un nuage. La voiture est vraiment plus performante. Elle est meilleure. Il n'y a rien à dire. Masterclass aussi de Verstappen, parce que je ne l'ai pas dit. Et il faut le reconnaître. Il a très bien piloté. Mais au-delà de son pilotage, ce que j'ai aimé, moi, c'est sa gestion de course. Parce qu'il a beaucoup parlé avec les ingés, il a beaucoup pris des informations, il commence à se renseigner aussi sur les temps de ses adversaires, sur la manière dont est gérée la course derrière lui, ce qu'il ne faisait pas avant, et ça montre et ça prouve peut-être qu'il est vraiment en train de prendre le costume de patron de la F1, hein, en tout cas sur cette saison, et bah, ça, c'est ça qui m'a plus impressionné que le reste. Après, c'était clairement un circuit Red Bull. Ne serait-ce qu'on n'en parle pas assez, mais Gasly, quatrième, qui fait une très belle course, toujours discret, mais qui ramène toujours des résultats. Et c'était pas fait pour les Mercedes, ne serait-ce que pour le turbo, c'était impossible
mais
que
attends,
ça fonctionne correctement.
Mais si je peux me permettre, Lewis, quand même, en fait, à chaque fois, tu te dis, tant qu'il restera pas un tour dans ce championnat, le mec, il lâchera
non,
rien. Quoi.
J'ai pas
il
dit lâchera que c'était rien. Fini. Attention, j'ai pas dit que c'était fini. Je reconnais la supériorité sur ce Grand Prix. Et bah, ce que je retiens.
On sait que tu avais l'air d'accord avec moi, disant qu'il y avait un boulevard quand même.
Ce que je retiens, c'est quand même le changement de cap par rapport à Verstappen, comme je te dis, sur sa gestion de course. J'ai été impressionné de ça parce qu'on l'a rarement vu faire ça. Il est vraiment en train de passer un cap. Mais dans ça, on ne veut pas dire que le championnat est fini, parce que moi, je garde et je continue à dire que Lewis, c'est un champion et que Lewis a toujours du caractère. La preuve en est aussi que lorsque Pérez lui a mis la pression, c'est pas lui qui a cédé, quoi. Donc, quand il était en train de sortir rapidement sur les. Enfin, qu'il prenait ses sorties de virage à toute balle et que Pérez n'y arrivait pas, on n'oublie pas qui c'est aussi. C'est pas un pilote qui vient d'arriver en F1. Donc, moi, je reste confiant. Maintenant, il faut reconnaître aussi quand l'adversaire est fort. C'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est pour ça que je parle aussi de Gasly, parce qu'il avait la voiture et le moteur qu'il fallait aussi pour aller chercher cette quatrième place. Ouais. Et le problème des moteurs
fou,
Mercedes,
en fait, c'est que
on le voit aussi avec.
Tu dis, excuse-moi, tu dis, une fois que tu n'as pas raté ton départ, en fait, tu es bien si tu as un moteur c'est Honda.
Ça. C'est ça. Sur ce circuit-là, on va pas se mentir, on va pas se leurrer. Mais ça se voit aussi avec McLaren. Quand tu vois que les gars ont galéré et que Norris se bat pour aller chercher un tout petit point limite, ça pose un problème aussi dans leur course à la troisième place, puisque Ferrari est passé devant. Donc, tu vois bien que. Tous ceux qui avaient des moteurs Mercedes, ça leur a coûté cher dans la course, dans leur combat au championnat.
Mais moi, tu vois, ce que tu dis depuis le début de la saison dans l'émission, c'est je te rejoins en fait. Tu avais raison. Il y a un problème de développement côté Mercedes. C'est sûr et certain, ils ont abandonné parce que là, on voit que Red Bull, ils prennent de plus en plus l'avantage et que même leur équipe bis, ils arrivent à mettre à l'amende des équipes équipées moteur Mercedes. Tu vois, donc
mais Samy,
je sais pas, il y a quelque
pardon.
Chose.
Samy, pardon, mais c'est moi qui dis ça depuis le début de la saison, mais ça va ou quoi? Je crois que tu prêtes beaucoup.
Bah, c'était Teddy qui disait aussi que Mercedes. Après, tu as peut-être dit ça, mais que Mercedes misait beaucoup sur 2022.
Samy, la semaine dernière, je disais que Mercedes était les champions du monde de la deuxième partie de saison, et cette année, c'est pas le cas. Mais bon, bref, en tout cas.
Mais le propos est un peu différent, c'est que je pense, moi, et tu me dis, Aliou, ce que tu en penses, du coup, que Mercedes a vraiment. Moi, j'avais du mal à le croire, mais là, il faut voir l'évidence, en fait. C'est que Mercedes a vraiment abandonné le développement. Ils se sont dit, on va avec ce qu'on a à la course au titre, et ils se font battre de peu, au final. Mais et voilà, on va avec ce qu'on a à la course au titre,
c'est
en l'espoir 2022.
Aliou, c'est pas pour reprendre mes propos, mais c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Ils ont stoppé le développement parce qu'ils se sont juste mis
en cette fin de saison, c'est flagrant,
anticiper en fait. L'année prochaine, c'est tout.
C'est flagrant en fait. Cette fin de saison, c'est clairement flagrant.
Mais pardon, messieurs, mais vraiment rapidement sur ce sujet, pour vous dire que pour moi, aujourd'hui, la Red Bull n'est pas meilleure que la Mercedes. Les deux voitures se valent. Le problème, c'est que lorsqu'on est sur des circuits Red Bull fait le carton plein, et lorsqu'on est sur des circuits typés Mercedes, Mercedes n'en a qu'un seul pilote.
Si pas seulement, Aliou, pas seulement. Excuse-moi, je te stoppe sur ça juste deux secondes. C'est que la grosse différence, pourquoi aujourd'hui, je pense, hein, Red Bull est devant Mercedes, c'est que si tu regardes bien les circuits qui sont pour Mercedes, Mercedes, même quand ils essayent de profiter des erreurs de Red Bull, il y a toujours une Red Bull qui arrivait à se placer. Comme par exemple, quand Verstappen a pris ses pénalités et qu'il partait du fond de grille, le gars finit quand même deuxième, tu vois. Alors que quand il y a des problèmes pour Mercedes, pour Red Bull, Mercedes n'arrive pas à profiter de ils n'arrivent pas à profiter des erreurs de leur adversaire pour monter au classement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au classement, eh ben, c'est serré comme ça, je trouve.
Teddy, ils n'arrivent pas à profiter pour la simple et bonne raison que Mercedes n'a pas gardé la même lignée qu'ils avaient en début de saison. On l'avait vu à Barcelone, lorsqu'ils avaient deux voitures contre une, on a vu ça s'est fini comment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Hamilton, il est seul. C'est ça le problème de chez Mercedes aujourd'hui. Hamilton se bat tout seul. D'ailleurs, je veux même peut-être vous surprendre, moi qui pronostique depuis le début de l'année que Verstappen allait être champion du monde, permettez-moi de changer, mais aujourd'hui, solennellement, mon pronostic. Mais j'ai vu hier quelque chose chez Red Bull qui m'a dit « Mais attendez les gars, vous connaissez mal Hamilton. Le prochain Grand Prix, c'est le Brésil, c'est Interlagos. C'est là-bas où Hamilton il a gagné son premier Grand Prix. Hamilton n'est jamais plus chanceux que lorsqu'il est au Brésil. » Et hier, à la fin de la course, qu'est-ce qu'ils ont fait Red Bull? Ils ont porté Verstappen comme s'il avait gagné le championnat, alors qu'il n'a que
10
points d'avance.
Et c'est pour l'énerver.
Il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en seconde position et qu'il doit chasser son adversaire. Personnellement, je pense que Hamilton va réussir à coiffer Max Verstappen contre toute attente dans le championnat du monde et deviendra champion du monde pour la simple et bonne raison que, premièrement, au Brésil, il est très chanceux Hamilton. Deuxièmement, il reste 3 circuits qui sont typés Mercedes. Et là, Hamilton, il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en position de chasseur. Et quatrièmement, surtout, je pense que Red Bull a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sur les images que j'ai vues hier, je pense qu'Hamilton, je change.
On va surveiller cette semaine, mais je pense qu'Hamilton, même s'il déteste ça, il va passer du temps au simulateur et qu'on va revenir avec une Mercedes un peu plus stable et plus puissante, parce qu'il n'a vraiment pas apprécié le fait que Verstappen soit aussi rapide et qu'il soit juste inatteignable. Donc je pense que
il cette s'y semaine... Attend. Teddy, comment s'y attendait. Hein.
Non, mais même s'il s'y attend, c'est une chose de s'y attendre, c'est une chose de le vivre.
Non, je pense, Teddy, je rebondis 2 secondes sur ce que tu dis, je pense que le pire pour Hamilton, et il l'a dit enfin, hein, en interview de fin de Grand Prix, c'est qu'il ne s'y attendait pas pour Perez. Il a dit « Comment ce type peut être aussi près de moi, quoi ?»
Et donc, on revient sur ce qu'Aliou dit, il est piqué au vif. Et donc, piqué au vif, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, on va voir. Moi, je pense qu'il y aura une belle réaction. Toto Wolff est tout aussi énervé, parce que pour que lui aille voir la presse tout de suite derrière et qu'il jette la faute sur un de ses pilotes, je pense que ça a dû souffler aussi du côté de Mercedes. Donc,
on va voir. Rapidement, je ne sais pas si tu as remarqué hier, mais j'ai l'impression d'avoir qu'on a reconnu le Hamilton des grandes heures. Le gars qui ne s'affole pas en course et après la course. Dans la course, lorsque Checo Pérez faisait la jonction, Hamilton a gardé son pilotage d'avant. Ça veut dire qu'il ne paniquait pas. Il a laissé Checo Pérez revenir. Même pendant 7 tours, Checo Pérez était sous le DRS. Hamilton n'a rien lâché alors qu'il faisait des sous-virages et tout parce que ses pneus commençaient à être à l'agonie. Et ensuite, après la course, lors des interviews, j'ai vu un Hamilton super stoïque, super calme, en se disant « Ok les gars, il a 19 points d'avance, il reste 4 Grands Prix, il n'y a pas de souci. » Ce Hamilton-là, j'ai pensé à plein de choses, je me suis dit « Attention !»
Mais Aliou, là où je ne suis pas d'accord avec toi, attention aussi pour Hamilton, 3 des 4 derniers Grands Prix sont dans le golf. Donc circuit, c'est des parkings de centres commerciaux, on les connaît ces circuits-là. Mais en plus de ça, je rajoute, course de nuit, ça va être bon pour Red Bull. Regarde à Bahreïn ce qui s'est passé, et c'était la première course de la saison. Lors des essais, Red Bull a cartonné aussi. Je pense qu'il faut, malheureusement, que sur ces 3 pays du Golfe-là, je vois bien 2 victoires Red Bull claires et nettes. Donc tout se jouera aussi au Brésil si Hamilton veut avoir une chance.
Ok les gars, bah écoutez, le rendez-vous est pris, il reste 4 Grands Prix. Est-ce qu'on assistera au réveil d'Hamilton ou alors à la confirmation et au sacre de Red Bull? Eh bien, écoutez, on en reparlera lors des prochaines semaines, messieurs. Je voudrais qu'on aborde ensemble un autre événement, puisque McLaren, qui depuis un an était la première voiture du plateau, vous savez, dans le championnat du reste du monde, si on enlève les Red Bull et puis les Mercedes, bien sûr, eh bien, McLaren vient de céder sa place à Ferrari, désormais troisième et sur le podium du classement des constructeurs. Que se passe-t-il chez McLaren? On va juste rappeler que McLaren, première partie de saison très, très intéressante, trois podiums de Norris, puis une période de creux. Et il y a eu le doublé à Monza, dans les circonstances que l'on connaît. Et à nouveau, une période de creux, mais en pire cette fois-ci. Ferrari a été beaucoup plus constant et j'ai pas l'impression que les Ferrari soient plus rapides pourtant durant cette saison. D'abord à lui et puis ensuite on va demander à Teddy son avis sur la question.
Ben il y a deux facteurs. Le premier c'est que au début de saison il n'y avait pas entre guillemets une guerre fratricide entre les deux pilotes. Il n'y a pas de pilote numéro 1 ou numéro 2, même si on sait que Zak Brown dans sa tête, il ne respire que de Lando Norris. Et ensuite, on a vu ce qui s'est passé à Monza. Ricardo gagne. La course derrière, Lando Norris peut gagner, mais il se sabre tout seul. Et depuis, on a plus ce jeu d'équipe qu'il y avait au départ. Chacun joue un peu pour sa pomme. Lando Norris se dit que mais c'est un peu la saison ou jamais que j'aurais pu gagner dans une voiture telle que la McLaren. Il l'a un peu à travers la gorge. Et donc, du coup, ce jeu d'équipe, on ne le voit plus très bien. D'ailleurs, même au niveau des qualifs, avant, les deux pilotes en Q2 et en Q3 se donnaient mutuellement une aspiration histoire d'être bien placés sur la grille. Là, on ne le voit plus trop. Et le deuxième facteur, c'est un peu le réveil de chez Ferrari. Iñaki Reda, qui est le stratège de Ferrari, j'ai l'impression qu'il s'est réveillé. On l'a vu hier. À un moment donné, il demande à ses équipes, à l'ingénieur de Leclerc, de dire à Leclerc de laisser Carlos Sainz passer. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire la jonction avec Gasly. Et Leclerc n'y arrivait absolument pas. Et ben, il s'est réveillé, il a dit, stratégie d'équipe, on est 6 et 7. Je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à Leclerc de laisser passer Carlos Sainz. Et depuis quelques Grands Prix, on voit que Ferrari commence à se réveiller au niveau de la stratégie. Et dernière chose, surtout, Mattia Binotto, enfin, il a compris qu'il ne pouvait pas gouverner seul, qu'il fallait déléguer. On a vu Laurent Meknès qui aujourd'hui fait un travail extraordinaire. On le sait, lorsqu'il est aux commandes de certaines choses, de certaines actions, et lorsqu'il délègue énormément, eh ben, ça va mieux. Et je pense que c'est la conjugaison de toutes ces choses qui font que Ferrari devient, entre guillemets, une voiture, une écurie potable.
Ok, donc si je résume la pensée d'Aliou, on ne joue plus en équipe chez McLaren et chez Ferrari, on s'est réveillé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Teddy?
Ouais, je vais rejoindre Aliou là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, chez McLaren, on le voit. Je pense que la cassure, ça a été la victoire de Ricardo. Parce qu'avant ça, le petit Norris était juste en train de dominer sa propre écurie. C'était lui le patron, en tout cas, c'est ce qu'il avait en tête. Et comme il n'a pas été le premier à gagner et que Ricardo s'est réveillé à ce moment-là, ça l'a vraiment piqué au vif et il a une réaction un peu d'un enfant, mais en même temps, c'est un jeune qui vient d'arriver. Il n'a pas beaucoup d'années d'expérience et je pense que ça l'a mis dedans. C'est pour ça aussi que derrière, il a raté son Grand Prix en voulant forcer. Il voulait absolument gagner. Je pense que ça aurait aidé McLaren, pas seulement avec les points, mais dans l'état d'esprit entre les deux pilotes. Alors que là, on voit bien que maintenant, il y a une petite guéguerre et que Norris ne s'est jamais vraiment remis de ça. Il ne veut plus travailler avec son coéquipier, l'entente n'est plus du tout la même, même dans le bus, on ne les voit plus autant être, comment dire, avoir ce complice. Chemistry, ce complice, être ensemble. Ça montre beaucoup de choses, alors que de l'autre côté, chez Ferrari, ça ne paniquait pas. Les deux pilotes se sont toujours entendus et aujourd'hui, ça paye. Après, je mets un tout petit bémol, parce que hier, Leclerc était quand même très déçu et il était dans l'incompréhension par rapport à cette décision-là de devoir laisser passer Sainz. Donc, à voir, en espérant que ça ne causera pas trop de problèmes.
Mais attends, Teddy, rappelons quand même que Sainz l'a relaissé passer après.
Oui, mais il est quand même. Il y a eu la scène et ils en ont parlé. Donc, j'espère que ça ne causera pas de problème, c'est ce que je dis. J'espère pas, surtout qu'ils sont dans une bonne dynamique. Mais chez McLaren, il va falloir trouver une autre solution, puisque au-delà de ça, au-delà de la mauvaise entente entre les deux, c'est qu'il n'y a plus de résultats. Et quand on tombe en plus sur un Grand Prix comme celui du Mexique, qui n'est pas fait pour les moteurs Mercedes, on en parlait précédemment, les gars, ils ont du mal à marquer les points. Donc, le cumul de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans le dur et Ferrari passe devant. Donc, il va falloir se réveiller de leur côté.
Alors juste voilà, pour,
ils ont les ressources.
Juste, comment dire, concernant là, la petite polémique Leclerc-Sainz, pas oublier que pour moi, Ferrari s'est raté en termes de stratégie en faisant rentrer Leclerc beaucoup trop tôt et que forcément, comme il y a eu un décalage au niveau des premiers relais au stand, la course n'était pas la même hein, pour du côté de Sainz. Donc, ils ont tenté quelque chose, ils ont rétabli ensuite les choses.
Je suis d'accord avec toi. Je te dis juste comment ont été perçues les choses, parce que je l'ai vu et ça a été dit par rapport à la réaction de Leclerc. Mais après, est-ce que lui, il fait bien de réagir de cette manière-là? Je ne suis pas sûr, mais il a quand même réagi. Donc, c'est juste ça. J'espère pour eux que c'est juste un fait d'après-course et qu'ils sont déjà passés à autre chose parce qu'ils ont vraiment les cartes en main pour vraiment finir troisième cette année.
Alors, juste avant que tu ne réagisses, Samy, alors moi je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, Teddy et Aliou, quand vous dites que Ferrari s'est amélioré ses performances et que le tournant finalement pour McLaren, c'était le Grand Prix de Monza. Enfin, ce n'est pas vraiment ce que tu dis, Teddy, mais c'est plutôt la théorie d'Aliou. Moi, je pense que les McLaren, paradoxalement, avant Monza, étaient moins performantes. Parce que Monza, bon, dans les circonstances que l'on connaît, souvenez-vous, accrochage Hamilton, Verstappen, laisse un boulevard finalement à la stratégie McLaren. Mais avant Monza, on a eu la Hongrie, on a eu les Pays-Bas. Bon, on a eu la Belgique, ça ne compte pas vraiment. On a eu Silverstone. Et là, déjà, les McLaren étaient moins bien. Donc, moi, je pense que c'est plus une dégradation de la performance de McLaren plutôt qu'un sursaut du côté de chez Ferrari, où certes, en termes de régularité, c'est un peu mieux du côté de chez Ferrari, mais il n'y a pas non plus d'amélioration
significative. Tu sais pourquoi ? Excuse-moi, Samy.
Pas tous en même temps, les gars. Pas tous en même temps.
Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils sont encore en train de régler les voitures, tout simplement. J'écoutais dans la version québécoise, hein, vous m'excuserez, mais c'est ils en parlaient, c'est que McLaren est encore en train de faire des réglages, mais cette fois-ci par rapport à Ricardo, parce que Norris étant arrivé en F1 sur une McLaren, et ben, y a beaucoup de choses où ben, lui il s'est adapté directement en pensant que la F1 était comme ça, alors que Ricardo, qui a fait quand même pas mal d'écuries différentes, est en train encore de leur dire voilà, ça va pas, ou ça faudrait essayer de voir ça, comme par exemple il parlait à un moment de la réactivité du volant. Donc c'est des choses de le faire en fin de saison, moi je trouve ça fou. Mais ils sont en train de le faire. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui fait aussi en sorte qu'ils sont moins bons ?
Et Gilles, avant de laisser la parole à Samy, moi, j'ai juste une question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as entendu Mattia Binotto parler ? Mattia Binotto, c'est un moulin à parole. Et là, depuis quelques Grands Prix, à Maranello, on lui a fait comprendre que la
gestion... Aliou, tu m'ouvres une brèche. C'est ce que j'attendais de dire, vas-y.
Bah, la gestion n'est pas bonne, il fallait déléguer. Et on entend de plus en plus des gens venir dans les micros... Laurent Mignès, personne ne le voyait avant, mais il vient. Iñaki Reda, personne ne l'entendait avant. Et maintenant, quand tu écoutes aujourd'hui les conversations radio internes des équipes, tu vois beaucoup Iñaki Mignès parler aux ingénieurs, donner des instructions en termes de stratégie. Et aujourd'hui, ben, ça va mieux chez Ferrari.
Vas-y, Samy, engouffre-toi dans la brèche.
Ouais, bah écoute, justement, moi, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce que pour Ferrari, la meilleure des choses, c'est pas justement ces absences répétées de la part de Mattia Binotto? On voit bien que, on le savait, hein, Binotto est un bon adjoint. Je dirais même pas un second, c'est un bon adjoint, peut-être un troisième dans la hiérarchie. Mais pas un bon directeur d'écurie, un bon directeur chef, surtout dans une écurie comme la Scuderia. Par rapport à l'année dernière où Ferrari avait touché le fond, là, ce qu'on peut voir et ce qui, je pense, leur permet d'être au-dessus de McLaren aujourd'hui, c'est la régularité. Une régularité sans faille, ces deux bons pilotes qui arrivent à faire des choses incroyables avec une voiture qui, on le sait, est en dessous, que ce soit au niveau moteur encore, que ce soit au niveau aéro, la voiture est en dessous. Je dirais même que elle est en sa vraie place en réalité, c'est derrière McLaren et derrière AlphaTauri. Le problème, c'est que AlphaTauri a des problèmes de pilote, clairement, avec un pilote irrégulier et un pilote très largement en dessous. Et McLaren, bah, vous avez évoqué toutes les difficultés qu'il rencontre, je ne vais pas le répéter. Par contre, que ce soit au niveau des arrêts au stand, que ce soit au niveau de la communication entre pilote et ingénieur de course, que ce soit au niveau de l'entente entre les deux pilotes, il y a beaucoup de respect et on a l'impression qu'ils tirent tous vers un objectif commun, essayer de rendre à la Scuderia sa gloire d'antan.
Samy, pardon, il n'y a pas beaucoup de respect entre les deux, c'est qu'ils ne gagnent pas, ils ne font pas de podium, ils ne font rien. Carlos Sainz, tout le monde connaît son tempérament.
Carlos Sainz, regarde, si tu reprends Monaco, oui, Charles Leclerc, il fait pole position, Carlos Sainz, il est sur le podium.
Sur 19 Grands Prix, si les deux ils doivent se coltiner un podium, c'est normal. Moi, je vais dire une chose, c'est comme ce qu'on vient de dire chez McLaren. Mais,
attends, laisse-moi finir mon propos. Pas. Du coup, moi, je te dis, sur Ferrari, c'est la régularité qui fait qu'ils sont à cette place-là. Parce que Ferrari, ils sont toujours 4, 5, 6, tu vois, ou 5, 6, ou 4, 5. Mais tu vois, ils sont toujours réguliers. Ils sont ni sur le podium, ils n'arrivent pas. Enfin, ils perdent facilement les duels quand les autres écuries sont à leur place. Hein. Quand Bottas est là, quand Gasly est là, il n'y a pas de problème. Ils vont ils vont garder toujours leur place en retrait. Mais ils sont super réguliers et ils travaillent super bien.
Et le problème, Samy, c'est que les places 5-6, depuis le début de la saison, elles étaient plutôt pour McLaren.
Ouais, elles étaient. Rapidement, hein, tu poses la question à Samy, mais rapidement, je me permets. Elles étaient pour McLaren parce que McLaren, il y avait une bonne gestion en fait chez McLaren. Mattia Binotto, depuis un an et demi, il a compris que sa gestion n'était pas bonne et il devait revenir à la gestion, arriver à Bene, c'est tout. Et quand Samy me dit que comme quoi il y a une bonne entente entre les deux pilotes, non, on connaît tous le tempérament de Charles Leclerc. Lorsqu'il est arrivé, il a immédiatement voulu mettre Vettel à la retraite. Carlos Sainz connaît parfaitement aussi, il a un tempérament.
Après, c'est une question de talent. Vettel était sur la pente descendante.
Non, ils ont en fait les deux pilotes. C'est juste pour te dire que Carlos Sainz et Charles Leclerc, c'est pas une question, il y a une bonne entente où ils s'aiment bien ou quoi que ce soit, c'est juste que la voiture n'est pas performante au point que les deux peuvent se rentrer dedans. Mais le jour
il n'y a pas que ça, mais je suis d'accord avec toi, on peut accepter ces arguments.
Le jour où ils ont vraiment un baquet ou la voiture...
Ils sont professionnels.
Mais en fait, il n'y a rien à gratter, en fait. Ils vont pas
McLaren, il n'y a pas plus à gratter côté McLaren. Tu vois bien que Lando, qui a pourtant un contrat à long terme, il a les dents qui raillent le sol.
Samy, je ne peux pas te laisser dire ça, parce que lorsqu'on est Ferrari et on joue pas pour un podium, j'ai envie de te dire que les pilotes, en vrai, ils s'en foutent, quoi. Ils veulent juste avoir une voiture qui est performante, contrairement à McLaren. Par contre, là, on sait tous que McLaren est une voiture entre guillemets de seconde zone. Donc oui, les pilotes, forcément, chacun veut avoir le titre de numéro 1, le premier baquet. Et en plus de ça, quand la voiture est performante, c'est encore mieux. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Ferrari a enfin compris que Mattia Binotto était un excellent ingénieur. Ça, c'est indéniable. Ça, tout le paddock est prêt à le jurer. Il n'y a pas de souci. Mais en tant que team manager, il est nul. Pendant un an et demi, il a fait n'importe quoi. Et Ferrari, aujourd'hui, se mord les doigts d'avoir... Je vais partir, arrive à Bene pour faire venir Mattia Binotto. Mattia Binotto a enfin compris, après que Maranello a tiré plusieurs fois les sonnettes d'alarme en lui disant « Écoute, c'est fini », qu'il ne pouvait pas gouverner tout seul. Et donc, du coup, on voit aujourd'hui que ça va mieux chez Ferrari. Et concernant Charles Leclerc et Carlos Sainz, pourquoi il y a une bonne entente ? Parce qu'il n'y a strictement rien à gratter. Il n'y a même pas un podium à gratter. Comment tu veux qu'ils se rentrent dedans, les deux ? Le jour où il y aura des podiums à gratter ou des victoires, crois-moi, il y aura des attaches chez Ferrari.
Teddy ?
Juste pour rajouter, on parlait tout à l'heure sur les derniers Grands Prix qu'il y en aurait au moins 3 pour Mercedes. Ça veut dire 3 pour McLaren. Donc, faire attention. Ferrari est sur une bonne pente, mais si les McLaren sont bien réglés...
Moi, je suis pas d'accord. T'es dit, non, pourquoi tu peux pas dire ça. Dans les pays du Golfe, les circuits, je te dis, typés parking de centres commerciaux, avec des sorties de virages énormes, etc. C'est pour moi, cette année, Red Bull
Red Bull, tranquille là-dessus. Mais McLaren, est-ce que McLaren se bat avec une Red Bull ? Non, Mais
non, bien sûr que non, mais
lutte,
du coup, Mercedes, c'est pas des types Mercedes. C'est faux. C'est en ça. Plus, dans ces quatre dernières courses, comment dire, il y a deux circuits qui sont inconnus, dont un qui est même pas encore terminé. Donc, on sait pas en fait comment ça se passe.
Ah oui, je dis qu'elles sont typées Mercedes parce que le moteur s'y prête. Après, que Red Bull soit plus fort, c'est autre chose, sans doute. Mais moi, je pense qu'avec les réglages, et dont les derniers qui ont été faits chez Mercedes, il y a de fortes chances qu'ils puissent faire quelque chose. Après, que la Mercedes soit au-dessus de la Red Bull, c'est un autre débat. Moi, ce que je veux dire, c'est que les moteurs vont bien répondre sur ces circuits-là. Et s'ils répondent bien, ça veut aussi dire que McLaren est censé bien répondre aussi. Et donc, dans sa course pour la troisième place avec Ferrari, normalement, on devrait avoir une belle bataille aussi de ce côté-là.
Et pour aller dans le sens de Teddy, Samy, tu as oublié que les dernières années te contredisent. Parce que les dernières années, la voiture, la monoplace qui a fait le maximum de points, ce n'est pas du tout la Red Bull. Hein, c'est la Mercedes.
Dans quel circuit?
Hamilton.
Dans quel circuit?
Quand tu vas dans les circuits du golf, quand tu prends les.
Bah, quand tu vas, bah oui, quand tu regardes Bahreïn et Abu Dhabi les saisons précédentes. Donc déjà l'année dernière course, c'est bien Verstappen qui gagne. Bien évidemment, Hamilton revient du Covid, etc., etc. Et on est d'accord. Bahreïn, eh ben, les deux Mercedes sont out. C'est Pérez qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
au Brésil, c'était Verstappen il y a deux ans.
Mais moi je te dis,
Doron. Exactement. Verstappen, il est toujours au Brésil.
Il est là.
Il est là, il aime bien le premier virage. Il a juste des problèmes avec Ocon. Donc, il est possible que Ocon mette la course au titre dans sa poche.
On ne va pas refaire le débat Verstappen-Hamilton. Mais moi, je te dis juste une chose. J'ai l'impression qu'Hamilton a enfin compris, à quatre grands prix de la fin, qu'il était seul face à Red Bull. Moi, j'ai cette impression-là. Et quand Hamilton... Il est en mode je suis seul face à tout le monde, je suis seul face au reste du monde. C'est là où Hamilton est le plus dangereux.
Mais on va pas refaire. On peut presque dire la même chose pour McLaren. Ils savent qu'il leur reste pas beaucoup de grands prix et qu'à mon avis, il va falloir tout donner s'ils veulent aller chercher cette troisième place. Au-delà de la notoriété que ça peut apporter d'être troisième, il y a aussi l'argent qui va avec et McLaren serait bien content de recevoir ce chèque-là en fin de saison. Donc, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une belle bataille entre Ferrari et McLaren.
C'est mort chez McLaren, il y a trop de politique chez McLaren. Et c'est ça qui a plombé aussi la deuxième partie de saison chez McLaren. À partir du moment où Ricardo il a gagné, ils n'étaient plus en train de gérer des pilotes, hein. Ils étaient en train de gérer. C'est devenu trop politique chez McLaren.
Ouais, mais avec la politique à Lula, tu sais que tu dois aller chercher un gros chèque. Ouais, mais c'est le combat. C'est le combat, surtout pour la nouvelle politique au niveau de la F1. Ils vont vouloir aller chercher ce chèque-là. Donc, est-ce qu'on ne va pas justement faire une réunion pour dire aux gars, il vous reste que quatre courses et vous la fermez et vous écoutez ce qu'on vous dit?
Teddy, Lando Norris, c'est une princesse. Il sait très, très bien qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur lui. Il est jeune. Il rapporte beaucoup d'argent à la fois sur le circuit et en dehors. Parce que voilà, c'est un gars bling-bling et tout. Il le sait, tout ça. Il est très bien entouré. Il a de très bons conseillers. Et Lando Norris, il a la tête à conduire, certes, mais il a la tête à autre chose aussi. C'est pour ça que...
Mais tu ne penses pas qu'ils vont le recadrer, justement. C'est l'intérêt de l'écurie, quand même. Là, ce n'est pas juste un pilote.
S'il te plaît, moi, j'ai une question à te poser. Qui est en position de force entre Lando Norris et McLaren aujourd'hui? Lando Norris, aujourd'hui, il claque des doigts, il a un baquet. Lando Norris, dis-moi, sors-moi, quelle écurie de pointe aujourd'hui n'aimerait pas avoir Lando Norris?
Mais il n'y a pas de place. Donc, même s'il fait le malin, il se retrouverait en fond de grille.
Parce qu'il répond, répond à tous les critères. Il sait qu'il a un contrat longue durée chez McLaren. Il sait que ce contrat longue durée, en grande partie, dépend de lui parce que l'année prochaine, il a un baquet. Et au milieu de l'année prochaine, on sait tous, les sièges musicales, en milieu d'année, ça se passe comment? On ne sait même pas, Checo Pérez, est-ce qu'il va rester encore chez Red Bull? On ne sait pas, Carlos Sainz, quel est son avenir encore chez Ferrari, sachant que Ferrari peuvent changer de pilote comme ils changent de sous-vêtements pour ne pas être vulgaire. Donc, j'ai envie de te dire que Lando Norris, il sait très, très bien qu'il est en position de force, contrairement à Daniel Ricciardo, qui aujourd'hui est à l'aube de la trentaine, si je ne dis pas de bêtises. Il sait très bien, il demande clairement des gages à McLaren. C'est pour ça qu'il boude. Lando Norris est en train de bouder, tout simplement. Il faut juste voir les qualifications. Au lieu de donner il sait très bien qu'il allait partir en fond de grille. Au lieu de donner l'aspiration à Daniel Ricciardo, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, Lando Norris. C'est une petite princesse.
Moi, je suis d'accord avec toi, Aliou, mais le seul truc, je te dis, à un moment donné, tu as un patron dans une écurie. Donc, quand tu dois avoir l'intérêt de ton écurie, je suis désolé, princesse ou pas princesse, il y a bien quelqu'un qui va frapper du poing sur la table. Parce que Il y a un fait marquant. Ils ont perdu cette troisième place-là. Tu peux le laisser bouder quand vous êtes encore troisième. Mais là, si tu vois que tu es en train de te dégrader au niveau du classement, à un moment donné, il faut recadrer tout le monde. Tu n'as pas le choix. En fait. Ouais,
recadrage.
S'ils ne le font pas, c'est qu'il n'y a pas de patron là-bas. Et là, par contre, c'est un autre problème.
Le recadrage en Formule 1, si ça servait à quelque chose, t'inquiète pas que Valtteri Bottas, il serait encadré depuis très longtemps.
Il n'y avait pas de pilote. Allez, provoque pas l'écurie Mercedes comme ça. Changeons de sujet, là.
Je m'étais calmé un petit peu, quand même. Il reste 4 grands prix pour vous écharper, si vous le souhaitez.
3 pour moi, Gilles.
Ouais, 3 pour toi, effectivement. Bon, on se donne rendez-vous pour le début du prochain Grand Prix du Brésil qui revient 2 ans après, puisqu'il avait été annulé les dernières pour à cause de la pandémie. Et comme tu l'as rappelé, Teddy, c'était Max Verstappen qui s'était imposé en 2019. Et on se souvient que vraiment, c'est un circuit qu'aime bien Verstappen, surtout quand il pleut. Donc on aura l'occasion de revenir sur tout ça dès le week-end prochain, messieurs. Merci à vous, merci encore à toi, Samy, merci à Lou Alassane et merci à Teddy.
Salut à tous, merci Gilles.
Salut à tous,
et à toi, merci à tout le monde.
Nous refermons ce podcast, retrouvez-nous très bientôt dans Parlons Sport en audio et sur les réseaux sociaux.
Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.